Les marchandes de sable, le lac des cygnes, de Philippe Lechemercier et Amanda Minasio. Plus que tout, ce qu'elle aime, ce sont les nuits d'été. Prendre son envol alors que le soleil disparaît dans le feu des nuages, déployer ses ailes, sentir le vent entre ses plumes et se laisser porter par les courants invisibles de la terre. Là-haut, tout est si simple, si beau, le vert sombre et puissant des forêts, les lumières vacillantes des villes et l'éclat des étoiles qui se reflètent dans les fleuves et les rivières. Toute la nuit, elle a parcouru le ciel. Elle est épuisée, mais cette fatigue lui a permis d'oublier quelque temps son malheur. Le plumage recouvert de perles de rosée, elle a entamé sa descente en tournant plusieurs fois autour du lac. Comme chaque matin, elle se réjouit de retrouver pour quelques instants son apparence d'avant, avant qu'on ne l'ensorcelle. Alors qu'elle approche de la surface de l'eau, elle relève ses ailes puis elle arrête sa course sur le rivage. Là, comme à chaque fois, elle ressent le même émerveillement. L'une après l'autre, les plumes qui recouvraient son corps laissent place à une peau blanche et lisse. Ses jambes et ses bras s'allongent, son bec disparaît, et dans le reflet de l'eau, à la place d'un cygne, elle distingue maintenant une jeune fille. « Odette !» murmure-t-elle en souriant, comme si elle doutait encore de son existence. Par-delà le lac et la forêt, au cœur du palais, le prince se contemple dans une glace. Ce soir, il célèbre son anniversaire, et en son honneur est donné un bal costumé. À ses côtés, Bruno, son meilleur ami, a revêtu la peau épaisse et sombre d'un ours. La pelisse qui recouvre jusqu'à sa tête, ses griffes et ses crocs lui donnent un air redoutable. Alors que le prince se drape dans une cape faite de milliers de plumes, des plumes de toutes les couleurs et de toutes les nuances, et qu'il recouvre son visage d'un masque, Bruno ne peut retenir un cri d'admiration. « Magnifique, vous êtes magnifique !» dit-il en réprimant un frisson. Le soir, quand le prince rejoint la fête, un murmure parcourt l'assemblée. Du haut des marches, il admire à son tour les costumes de ses invités qui ont rivalisé d'originalité. Les jeunes filles sont grimées en papillons, en libellules, en belettes ou en chats sauvages. Déguisées en loups, en renards ou en lynx, il reconnaît ses compagnons de chasse. Le bal commence et Bruno l'entraîne aussitôt dans une folle sarabande. Il passe des bras d'une salamandre à ceux d'une louve pour finir dans ceux d'une biche. Dans le palais, la fête est partout, jusque dans les jardins éclairés par les torches et les lampions. La lune a presque achevé sa course quand les derniers invités s'en vont. L'un après l'autre, les lumignons s'éteignent et la reine vient le retrouver. « Tu sais qu'il est un temps pour l'amusement et un temps pour le devoir. Tu as maintenant 20 ans, il te faut trouver une femme. » « Parmi les jeunes filles présentes ce soir, en as-tu distingué une qui a ta préférence ?» Comme le prince se contente de hocher la tête de droite à gauche, elle ajoute d'une voix qui ne souffre aucune discussion. « Je m'en doutais. Puisque tu aimes tant les fêtes, dans 7 jours, nous organiserons un nouveau bal. Et cette nuit-là, quoi qu'il advienne, tu choisiras celle qui deviendra la future reine. » Pendant que sa mère disparaît dans les allées sombres du jardin, Bruno se lève pour prendre congé. Dans le ciel, le vol d'un cygne attire leur attention. « Viens !» dit le prince, soudain ragaillardi. « Prenons nos armes et suivons-le. » À la poursuite du cygne, le prince et Bruno s'enfoncent dans les profondeurs de la forêt. Quand l'oiseau blanc amorce sa descente, il s'arrête sur une falaise qui domine un lac. « Regarde-le !» murmure le prince. « Quelle beauté ! Que ne donnerais-je pas pour pouvoir voler comme lui ?»« Chut !» dit Bruno en glissant une flèche dans son arbalète. « Préparons-nous, il va se poser. » Mais alors que le cygne n'est plus qu'à quelques mètres et que son compagnon s'apprête à tirer, d'un geste, le prince le déséquilibre et sa flèche part dans le vide. Dans l'espoir de rattraper l'oiseau, Bruno dévale les rochers. Le prince le suit sans rien dire. Jusque-là, toujours fier de revenir au palais avec du gibier, il a tué ce que jamais ses proies ne l'attendrissent. Soudain, pourtant, quand ils arrivent sur la berge déserte et qu'ils ne trouvent sur les galets rien d'autre qu'une plume blanche, c'est un immense soulagement qu'ils ressentent. Les jours qui suivent, des messagers parcourent le royaume pour annoncer le fameux bal. Au palais, les préparatifs vont bon train, mais le prince passe ses journées dans sa chambre à contempler la plume blanche. L'idée de devoir prendre pour épouse une femme qu'il n'aime pas le plonge dans une profonde mélancolie dont même Bruno n'arrive pas à l'arracher. La veille du bal, sa mère lui rappelle son devoir et il se sent plus seul que jamais. Penché à sa fenêtre, il regarde la nuit tomber. La mort dans l'âme, il se résigne à accepter son destin quand un claquement d'ailes l'arrache à ses pensées. « Te revoilà ?» murmure le prince en voyant le cygne se glisser dans le ciel. Et sans annoncer son départ, il s'échappe du palais. Dans la nuit, le prince perd la trace de l'oiseau. Plusieurs fois, il s'égare dans les bosquets sombres et les marais humides. Plusieurs fois, son cheval s'emballe, manquant de chuter avec lui. À l'aube, il finit par retrouver le lac. Dans le ciel, le cygne amorce sa descente. Il survole la surface de l'eau puis redresse ses ailes pour ralentir. Sous le regard halluciné du prince, un spectacle extraordinaire se produit. À peine l'animal s'est-il posé que ses pattes s'allongent, son bec s'estompe. Puis, les unes après les autres, les plumes disparaissent, laissant place à une peau douce et blanche. Quand enfin le cygne arrête sa course sur le rivage, il s'est transformé en une belle jeune fille qui s'avance dans le feu du soleil levant. Le prince reste longtemps devant cette apparition dont chaque geste, chaque mouvement est un émerveillement. Émerveillement quand elle souffle sur ses bras pour faire disparaître le reste de duvet. Émerveillement quand elle coiffe ses longs cheveux. Émerveillement quand elle se lave dans l'eau du lac et qu'elle s'allonge sur les pierres blanches jusqu'à ce que sa peau soit sèche. Quand il recouvre ses esprits, le prince est déterminé. Jamais il n'épousera une autre femme qu'elle. « N'aie pas peur !» dit-il en sortant de sa cachette. « Je suis le prince de ce royaume. Je ne te veux aucun mal. » Pour la rassurer, il s'approche lentement d'elle et d'un geste délicat, il retire une plume restée dans ses cheveux. « Es-tu femme ou es-tu oiseau ?» demande-t-il en souriant. « Mon nom est Odette. Ma famille vit dans ton royaume. »« Odette ? Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vue à aucune fête, à aucun bal ? Mais qu'importe. Explique-moi plutôt par quel prodige tu peux te transformer en oiseau et te mettre à voler. » Odette alors se mit à raconter son histoire. Il avait suffi qu'elle croise un jour le chemin du sorcier Von Rothbart pour qu'il jette sur elle un puissant sortilège. « Il veut que sa propre fille vous épouse afin d'accéder au pouvoir, » explique Odette. « Et comme il avait peur que ma beauté éclipse la sienne, » poursuit-elle en rougissant, « il m'a transformée en cygne. Depuis, prisonnière d'un corps d'oiseau, je vis loin de ma famille et de mes amis, et tout le monde me croit morte ou disparue. Je ne retrouve mon corps d'antan que quelques instants à l'aube, sur les bords de ce lac. » « C'est effroyable, » dit le prince en mettant la main sur son épée. « Un mot de toi et j'irai affronter cet abominable sorcier. » « La force ne peut rien contre Von Rothbart, » soupire Odette. « Seul l'amour peut mettre fin à cette malédiction. » À ces mots, le prince tombe à genoux. Qu'elle cesse de se tourmenter, ce sortilège prendra bientôt fin. Ce soir, elle viendra le retrouver au bal. Il l'invitera à danser et là, devant sa mère et toute la cour, il annoncera qu'il veut l'épouser. « Tu ne comprends pas, » souffle Odette. « Ce n'est pas un jeu. » Il faut que ton amour soit sincère, sans quoi je garderai à jamais l'apparence d'un cygne. Fais-moi confiance, je suis sincère et plus sérieux que jamais. Dès que je t'ai vu, j'ai su que c'était toi que j'aimais. Pendant un court instant, ils restent sans rien dire. Main dans la main, ils mêlent leurs regards et leurs rêves lorsqu'un bruit dans les feuillages les fait sursauter. Ce n'est qu'un hibou, dit le prince en riant, mais la jeune fille secoue la tête. La magie de Von Rothbart est puissante. Elle lui permet de prendre n'importe quel aspect. Parfois, il se fait serpent, parfois corbeau, parfois crapaud ou hibou. « N'aie crainte, » la rassure le prince. « Après le bal, nous serons unis à tout jamais et Von Rothbart ne pourra plus te faire de mal. » Le soir, au palais, devant le prince et sa mère, c'est un défilé ininterrompu de beauté et d'élégance. Mais les prétendantes ont beau s'incliner devant lui, aucune n'obtient du prince plus qu'une attention courtoise et quelques mots polis. « Que fait Odette ? » s'inquiète-t-il. « Est-il possible qu'elle ait douté de sa sincérité ?» Mais alors que le bal approche de sa fin et que sa mère le presse pour connaître son choix, Soudain, elle apparaît. Elle est accompagnée d'un homme à l'air sombre et elle porte une robe d'un noir profond. Sa beauté est si extraordinaire que dans la salle, un murmure se fait entendre. Et quand la reine voit son fils inviter la nouvelle venue pour une danse, elle comprend que son choix est fait. Odette, j'ai cru que tu ne viendrais plus, dit le prince en écartant les bras. Et sous les yeux fascinés de l'assistance, ils se lancent tous deux dans une valse étourdissante. Combien de temps leur danse dure-t-elle ? Quelques minutes ? Quelques heures ? Le prince n'en sait rien. Tout ce qui lui importe, c'est de lier son destin à celui d'Odette pour le reste de sa vie. Aussi, à peine la musique s'achève-t-elle qu'il lui offre un magnifique anneau serti de diamants, sans regarder vraiment celle qui va devenir sa femme, sans entendre la voix suppliante qui l'appelle à l'extérieur du palais. « Mon prince, mon prince, mon prince !» Devant les fenêtres du palais, la voix de la véritable Odette se brise. Le matin, longtemps après que le prince s'en était allé, elle avait gardé son apparence de jeune fille, comme si le sortilège n'avait jamais existé. Il l'aimait et cet amour allait lui rendre définitivement son corps et sa liberté. Malheureusement, en cheminant vers le bal, elle n'avait cessé de s'égarer, comme si la forêt refusait de la laisser partir. Quand enfin elle avait pu échapper au piège que formaient les arbres autour d'elle, la nuit était tombée depuis longtemps. Elle avait eu beau courir aussi vite qu'elle le pouvait, abandonnant ses souliers, traversant le parc à en perdre haleine, elle était arrivée trop tard. Car même si derrière la fenêtre, la fille de Von Rothbart venait de dévoiler au prince son vrai visage, il n'y avait plus rien à faire. En glissant l'anneau à son doigt, il l'avait épousée, condamnant Odette pour l'éternité. Oh, comme la douleur s'empare de tout son être, comme elle s'enfonce en elle aussi profonde que la flèche de l'arbalète. Leur amour, Von Rothbart l'a détruit. Avec ses sortilèges, il a brisé leur espoir de bonheur et de félicité. « Qu'as-tu fait ?» crie Odette collée aux vitres du palais. « Tu viens de rompre ta promesse !» Désespérée, elle prend la fuite, sans même regarder les plumes qui recouvrent sa peau, ses pieds qui se transforment en pattes et ses bras qu'elle déploie en deux immenses ailes. Tandis que le prince comprend qu'il s'est fait abuser et qu'il n'a pas épousé celle qu'il aimait, elle disparaît dans le ciel. « Nos montures, vite !» ordonne le prince à Bruno, avant de se lancer dans un galop effréné qui les mène au lac. Quand il s'arrête au bord de la falaise et que le cygne s'éloigne dans le ciel, son ami le presse de retourner au palais. « Tout le monde vous attend, votre mère, votre future épouse et Von Rothbart. » À ces mots, le prince est saisi de froid. Il repense à Odette, perdue à tout jamais. Odette. Alors il écarte les bras pour déployer sa cape. Une cape faite de milliers de plumes, des plumes de toutes les couleurs et de toutes les nuances. Et il se laisse tomber dans le vide. Horrifié, Bruno se précipite sur la pente escarpée. Plusieurs fois, il manque tomber, mais quand il arrive au pied des immenses rochers, il a beau fouiller la plage, les fourrés, il ne trouve aucune trace du prince. Seule reste une plume blanche sur les galets. En se baissant pour la ramasser, il entend des cris d'oiseaux. Dans le ciel aveuglant, deux cygnes battent des ailes, s'élevant au-dessus du lac. Survolant la forêt, survolant la ville et le palais, ils s'en vont par-delà les mers et les montagnes, loin, très loin, jusqu'à franchir l'horizon.